balade au cœur du village de l'Escale, Chris Alessandri.
L'Escale en balade et nous nous retrouvons en direct dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes à l'Escale et j'ai Philippe Guillot qui est élu à la mairie de l'Escale qui va nous présenter un tout petit peu, disons, la trame de cette émission, on va dire exceptionnelle.
Merci Chris. Alors tout d'abord, ce que je dois vous dire en premier lieu, c'est vous adresser des remerciements pour l'attention que vous apportez à notre village et surtout à ce projet qui nous tient tant à cœur. C'est un projet qui mêle les générations au sein de notre village. C'est un pont générationnel entre les enfants de l'école qui nous entourent, là, qui sont avec nous actuellement. Ils sont très silencieux parce qu'ils sont impressionnés par votre présence, mais ils sont là avec nous. Et les anciens qui sont là et qui sont un peu la mémoire du village. Nous y tenons à ce projet parce qu'il représente exactement ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que toutes les générations soient impliquées dans le bien-vivre à l'Escale. Alors, votre présence atteste de l'importance de ce projet. Donc, les enfants ont travaillé, et je vais passer la parole rapidement à Mme Bac, les enfants ont travaillé en amont pour poser des questions à nos anciens et aux responsables d'associations. C'est un travail qui a été préparé de longue haleine, mûrement réfléchi, et nous sommes très heureux, vraiment très heureux, que vous soyez là en présence des enfants, pour leur demander leur ressenti sur leur village et surtout l'attente qu'ils ont des anciens, parce que je suis sûr qu'ils se posaient des questions et ils auront des réponses à leurs questions. Voilà, merci Chris. Je passe la parole à Mme Bac qui va vous présenter le projet dans le détail avec beaucoup plus de science que moi. Merci Chris.
Merci Philippe. Je retrouve tout de suite Mme Bac. Vous êtes la directrice, Mme Bac, de l'établissement.
Oui, bonjour. Donc, nous avons ce projet cette année de faire un dépliant qui présente aux personnes ne connaissant pas l'Escale les trésors de mon village. C'est un projet qui est porté par l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école, et qui donc aide les écoles à gérer les coopératives scolaires et à monter des projets de toutes sortes. Et là, ce projet-là, donc, est de faire écrire aux enfants un petit texte autour de trésors que l'on a repérés en amont du village. Et nous avons, nous, la classe des CM2, sélectionné le trésor du village qui est le bourguet et en même temps la réserve ornithologique. Et nous avons du coup invité des anciens pouvant nous répondre à nos questions, donc les questions des enfants préparées en amont.
Madame la directrice, ça a été tout un travail d'investigation que vous aviez mené. De quelle façon ça a été géré? Comment vous l'avez vécu au sein même de l'établissement avec vos élèves?
Donc oui, effectivement, c'est un travail de toute l'année. Donc on a commencé à rechercher tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un trésor dans un village, parce que les enfants, au départ, pensent au trésor des pirates. C'est pas forcément quelque chose du patrimoine. Voilà. Ensuite, on a fait le tour du village. En recherchant tous les monuments ou tous les points importants du village pour après faire un choix parmi les trésors, parce qu'on a huit trésors à choisir et pas tous les trésors du village, sinon ça serait trop compliqué et trop long. Et nous avons interrogé aussi, les enfants ont dû interroger leurs anciens de chez eux, leurs parents, leurs grands-parents, pour savoir s'il n'y avait pas des trésors cachés dans le village. Voilà, donc après on a réfléchi aux questions, qu'est-ce qu'on peut poser sur ces trésors là pour ensuite pouvoir avoir du contenu pour écrire le texte. C'est pas moi qui vais faire ce travail là, bien évidemment, ce sont les enfants.
Balade au cœur du village de l'Escale, Chris Alessandri.
Sabine Bac, nous sommes au cœur de l'école des Hameaux avec toute une ambiance, les élèves sont là. Alors nous allons aborder le premier sujet, premier thème de cette émission avec vous.
Oui, alors le premier thème est autour du barrage. Donc je vais en profiter pour présenter donc deux personnes qui vont répondre à nos questions. Donc il y a Madame Chauvin et Monsieur Bernard. Monsieur Bernard est président de l'association du patrimoine Escalais et Madame Chauvin est membre de cette association.
Ludivine, en quelle année a-t-il été construit?
Bonjour Ludivine. Alors le barrage de l'Escale, il a été construit en 1962. Enfin, il a été construit avant, mais il a été mis en service en 1962. Voilà.
L'ENI, pourquoi a-t-il été créé?
Bonjour. Alors, il a été créé dans le cadre de l'aménagement de la Durance, qui commence à Serponçon et qui va jusqu'à Sainte-Tulle, où il y a plusieurs barrages et qui permettent de à la fois réguler l'eau, faire de l'électricité, alimenter en eau et l'irrigation et donner de l'eau potable également. Voilà.
Bonjour, Maïwan. À quelle vitesse tournent les hélices ?
Bonjour, Maïwan. Alors, en fait, à l'escale, il n'y a pas d'hélice. À l'escale, il y a simplement une retenue d'eau. Et tu vois qu'il y a un canal qui part du barrage et qui va jusqu'à Oraison. Et Oraison, il y a une chute souterraine de 83 mètres qui fait tourner les turbines. Donc, les turbines, elles sont uniquement à Oraison. À l'escale, tu n'as rien. Alors, à combien elles tournent ? Elles tournent au maximum à 200 tours minute. Hein, parce que tu sais que l'électricité qu'on produit est de l'électricité alternative, avec une fréquence de 50 Hz. Donc le problème dans une centrale hydraulique, c'est d'avoir bien la régulation de vitesse des turbines pour que l'électricité qui sorte soit effectivement à 50 Hz. Donc c'est ça le plus compliqué finalement, c'est de bien réguler la vitesse des turbines.
Noam, combien d'électricité fournit-il par jour ?
Bonjour. Alors, en fait, on ne peut pas parler d'électricité par jour. Parce que tu as plusieurs types de production d'électricité. Tu as d'une part des centrales où l'eau passe en continu. Donc là, on fait de l'électricité de manière continue. Tu as des centrales comme la centrale d'Oraison, où là, tu as une chute d'eau et tu as une retenue du barrage. Donc, c'est en fonction de la demande qu'on va faire passer l'eau dans le canal et qui va produire de l'électricité à Oraison. Ou si on n'a pas besoin d'électricité, l'eau va rester dans le cours dans la Durance. Tu vois ? Donc, par jour, on peut pas en parler. Annuellement, ce qu'on peut dire, c'est que ça correspond à l'alimentation, grosso modo, de 200 000 habitants sur l'année. Voilà.
Lily Rose, combien de kilomètres mesure la Durance ?
Bonjour. Alors, la Durance mesure exactement 323 kilomètres. Mais je pense que Colette va t'apporter une précision supplémentaire sur la Durance.
Juste une petite chose. La Durance n'a pas toujours été une rivière qui se jette dans le Rhône. Avant de se jeter dans le Rhône, la Durance était un fleuve. Elle se jetait dans la mer. Et c'est comme ça qu'on a la grande plaine de la Croix, là où il y a l'élevage des moutons, dans l'herbe salée, parce que la Durance avait un grand espace comme ça au bord de la mer.
Alors on a beaucoup parlé du barrage de l'Escale, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment des travaux du barrage de l'Escale, c'est là qu'on s'est réellement intéressé au Bourguet.
Eléa, qu'est-ce que le Bourguet ?
Bonjour les enfants. Le Bourguet est un lieu au bord de la Durance qui est un site de port datant des Romains. Ça s'appelle le Bourguet. On ne sait pas trop pourquoi. On donnera un semblant de réponse tout à l'heure. Mais on a trouvé, au moment de la construction du barrage, des vestiges romains. C'est pour ça qu'on s'attache beaucoup à ce site-là. Dans l'histoire de l'escale.
Milo, en quelle année avons-nous retrouvé le port romain ?
Alors bien sûr, on ne peut pas donner une date précise, une année précise pour l'installation du port romain. D'après les recherches archéologiques, les Romains se seraient implantés au bord de la Durance à l'escale au dernier siècle avant Jésus-Christ, entre moins 100 et l'an 0.
Théo, en quelle année a-t-on retrouvé le port romain ?
Dès le 19e siècle, donc entre 1800 et 1900, au cours des crues de la Durance, c'est-à-dire que la Durance était parfois très grosse et emportait des morceaux de rive, et déjà à ce moment-là, on trouvait des vestiges, on trouvait des objets, donc on peut dire il y a 150-200 ans, on connaissait déjà l'existence du Bourguet qui auparavant avait été couvert par les crues de la Durance. Voilà.
Juste, je rajoute quelque chose pour montrer quand même que l'escale, c'est pas n'importe quoi. À l'époque, donc c'était en 1875 par là, après une crue de la Durance, il y a un journal local à Fort-Calquier qui titrait « L'Escale, un nouveau Pompéi ».
Pauline, comment a-t-on retrouvé le port romain ?
On a retrouvé le port romain grâce aux crues justement de la Durance qui emportaient les alluvions qui étaient déposées dessus. Et on l'a bien découvert au moment de la construction du barrage parce qu'il a fallu nettoyer l'endroit et puis aussi essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé avant la mise en eau qui était urgente.
Evan, comment a-t-on su que c'était un port romain ?
Comment on a su que c'était un port romain ? Ben, grâce aux vestiges qu'on a trouvés, tout ce qui était vestiges, c'est-à-dire façon de construire les murs, objets trouvés, des pièces, des poteries, du marbre, des morceaux de statues, tout ça était attesté par les archéologues comme étant des objets romains de la même époque que des objets qu'on pouvait trouver dans d'autres sites de fouilles. Et la personne qui a fouillé le plus à ce moment-là s'appelait Monsieur Moulin. Monsieur Moulin travaillait à Saint-Auban à la météo et il était archéologue amateur. Et chaque fois qu'il trouvait quelque chose, il prévenait la préfecture, il prévenait le musée et il prévenait les archéologues de l'université pour que tout soit noté, attesté, photographié, répertorié.
Léna, pourquoi l'a-t-on appelé le Bourguet ?
Alors, le nom du Bourguet est un mystère, parce que normalement, Bourguet veut dire petit bourg, c'est-à-dire petit village. Donc, ça devrait être un nom qui ne peut pas dater des Romains, du Moyen Âge, vraisemblablement. Donc, est-ce que on trouve dans les textes anciens le mot Bourguet la première fois vers an exactement 1180? Est-ce que à la suite des Romains, quand les Romains ont déserté, est-ce qu'après il est revenu des populations, est-ce que ça a créé un petit village à cet endroit-là ? On ne sait pas trop. Toujours est-il qu'on a donné le nom de Bourguet, qui veut dire petit village, sans trop qu'on puisse maintenant dire pourquoi.
Et Loan, qui a construit le port romain ?
Alors je vais essayer de te répondre simplement. Qui a construit le port romain ? Ben, c'est les Romains. Mais sans doute pas tout seul. Les Romains étaient des grands conquérants. Et ils avaient beaucoup d'esclaves, donc sans doute que leurs esclaves les ont beaucoup aidés. Et puis peut-être, s'ils se sont entendus avec les gens qui étaient déjà là, ils ont peut-être fait ensemble, parce que de Romains, on est devenu Gallo-Romains. Et puis petit à petit, les populations se sont mélangées, comme ça continue maintenant, ce qui est normal.
Rachel, en quoi a été fabriqué le port romain ?
Alors le port romain était en pierre pour les murs, en marbre pour la décoration. Après, il y avait de la terre cuite pour les canalisations d'eau, pour les tuiles. On vous en montrera un bel exemple tout à l'heure qu'on a trouvé là-bas. Voilà, je pense que je vous ai dit les principaux matériaux du port.
Zoé, quels vestiges a-t-on trouvé ?
Alors, les vestiges qu'on a trouvés, un mur très important qui s'est découvert encore il n'y a pas longtemps. À un moment donné, on a vidé le barrage et ce mur est ressorti. C'est important de savoir qu'il y est encore. On a de belles photos. On a trouvé donc des pièces de marbre qui étaient sans doute des décorations d'un temple. On a trouvé beaucoup, beaucoup de pièces de monnaie, dont une très importante. Il n'y en a que deux connues dans le monde entier. L'autre, elle est dans un musée en Angleterre. Donc voilà. On a trouvé des morceaux de statues, des bases de colonnes, des tuiles, des poteries travaillées, beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que tous ces objets, ils sont bien quelque part. En premier, ils ont été emportés au musée de Digne. Puis le musée de Digne a changé de formule, de destination. Donc, on a des objets de l'Escale au musée de Ries, au musée de Saint-Rémy, au musée d'Avignon. On en a un peu de partout. Et on a ce qui représente le symbole de notre association, c'est une minerve en bronze. Voilà, il y avait aussi beaucoup d'objets en bronze, en métaux, style des aiguilles, des balances, des charnières. La statue qui représente notre association, le logo de notre association, c'est une Minerve. Et vous pouvez être très fiers à l'escale parce que la Minerve, c'est la déesse chez les Romains de l'intelligence, de la sagesse, de la ruse et puis accessoirement de l'armée et de la stratégie militaire.
Donc nous allons passer au troisième thème, c'est la réserve ornithologique et la faune autour de ce barrage. Je vous présente donc Monsieur Madeleine, qui est vice-président de l'association La Sistude.
Merci Sabine. Donc pourquoi la faune et la réserve ornithologique sont importantes à cet endroit-là? Ben, tout simplement parce qu'à partir du moment où EDF a créé un barrage, on a perturbé l'écoulement de l'eau. À partir du moment où il y a des crues, des matériaux vont être transportés par l'eau et petit à petit, ce barrage va se combler, se remplir. Et en se remplissant, eh bien, il a donné ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire ces immenses roselières sur lesquelles on va trouver les forêts riveraines qu'on appelle les ripisylves et qui, elles, participent à la diversité de ce lieu. Parce que si on a beaucoup d'espèces d'oiseaux, c'est parce qu'on a une grande diversité de milieux de vie, de biotopes qui sont disponibles pour les oiseaux. Quelque chose d'important aussi, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur un milieu artificiel. C'est l'homme qui l'a créé il y a une soixantaine d'années. Ce milieu artificiel redevient naturel. Et il redevient naturel parce qu'on est en capacité aujourd'hui d'essayer de préserver tout ça. Donc c'est un milieu qui est classé dans différents niveaux, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau de la France, au niveau de ce département. On est sur un espace qui est classé ZICO, ZNIEF, Natura 2000, espace naturel sensible. Mais ces trois termes-là ne veulent pas dire grand-chose pour le maximum des personnes qui vivent autour et qui y passent. C'est pour ça qu'on a voulu apporter cette notion de réserve naturelle pour essayer de faire mieux prendre conscience à la population de l'importance de ce lieu. Puisqu'on est sur un endroit où on a plus de 180 espèces d'oiseaux.
Élie, depuis quand existe-t-elle ?
Alors, la réserve ornithologique, si tu veux, n'a pas un statut pour l'instant définitif. On est sur une appellation pour permettre une meilleure compréhension par le grand public. Et là, on est en train de militer avec les communes de l'Escale, de Château-Arnoux et de Volonne pour essayer d'obtenir ce classement au niveau de la région ou au niveau national.
Eden, combien d'espèces d'animaux existent-ils dans la réserve ?
Alors, en termes d'espèces animales, c'est très difficile de te répondre. Parce que si on compte les poissons, les insectes, les batraciens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, c'est certainement plusieurs milliers. Et je ne t'ai pas parlé des végétaux. Nous, ce qui nous intéresse le plus actuellement, ce sont les oiseaux. Et sur une année, sur cette zone-là, on peut trouver 181 espèces d'oiseaux différents. Alors, il y a des nicheurs qui viennent juste nicher là, qui passent et qui vont repartir ensuite sous les tropiques. Et puis, on a des migrateurs qui, eux, font seulement une étape. Et puis, on a les sédentaires, ceux qui sont là toute l'année. Donc, tu vois, on a plusieurs statuts là-dedans. Mais 181 espèces d'oiseaux. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans notre région, en PACA, eh bien, il n'y a que deux endroits, en gros, où on a plus d'espèces. C'est en Camargue et dans les Salendières. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très important au niveau de la région.
Enzo, pouvez-vous nous dire quelques espèces d'oiseaux migrateurs ?
Alors, pour les oiseaux migrateurs, effectivement, c'est très intéressant. Ta question est très intéressante parce que ce qu'il faut savoir, c'est que partout dans le monde, les espèces d'oiseaux disparaissent. Et elles disparaissent, en gros, au rythme de 1% par an, ce qui est énorme. On estime que depuis la fin de la dernière guerre, donc à peu près un peu plus de 70 ans, Plus de la moitié des espèces d'oiseaux ont disparu dans le monde. Et chez nous, on assiste à quelque chose qui est un peu différent, grâce à ces oiseaux migrateurs que tu veux connaître, qui est un peu différent parce qu'on a de plus en plus d'espèces d'oiseaux qui viennent chez nous. Les migrateurs qui remontent d'Afrique pour passer l'été dans l'hémisphère nord arrivent le plus souvent par l'Espagne en traversant le détroit de Gibraltar. Et ensuite, eh bien, on traverse les Pyrénées avec une partie qui va suivre le littoral atlantique, une partie qui va traverser le massif central et une partie qui va suivre les rives méditerranéennes pour arriver jusqu'en Camargue, qui est une halte pour eux très importante. Et puis là, avant, ben, ils continuaient la Côte d'Azur pour arriver jusque dans la plaine du Pô. Mais les hommes s'étant de plus en plus installés le long du littoral méditerranéen, eh bien, les oiseaux ne trouvent plus la place qui leur est nécessaire pour pouvoir faire ces étapes. Et donc, dans le même temps, EDF est ancré avec les sociétés d'autoroutes, avec les carriers, avec les aménagements pour l'irrigation, une cinquantaine de zones humides sur la Durance. Eh bien, les oiseaux ont complètement changé et utilisent maintenant la vallée de la Durance pour passer le col du Mont-Genèvre et retourner dans la plaine du Pô et au-delà de le delta du Danube. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, 181 espèces d'oiseaux. Mais ces oiseaux, les migrateurs, ben, on a aujourd'hui des espèces qu'on n'avait jamais vues ici. Par exemple, les cigognes. Les cigognes, autrefois, on n'en voyait pas. Aujourd'hui, on en trouve. Les grues cendrées. Autrefois, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on a des grues cendrées. Des grands vols de grues cendrées qui, au printemps et à l'automne, font des escales ici dans la région. Je peux te parler aussi d'une espèce qui est très intéressante, c'est les guépiers. Alors je te dis elle est très intéressante parce que sur les hauts de l'escale, on a plusieurs sites qui accueillent des guépiers. Alors le guépier, c'est un petit oiseau qui creuse des terriers dans le lit des rivières et qui va, à partir de ces terriers, pouvoir se nourrir en capturant des guêpes, des abeilles, des libellules, toutes sortes d'insectes qui sont là, au-dessus de la rivière, et qui les intéressent énormément pour se nourrir. Je vous ai amené des petits documents que vous pourrez consulter. Des migrateurs, il y en a au moins plus de la moitié des espèces qu'on a ici qui sont des migrateurs, qui ne sont pas tout le temps là. Donc je ne vais pas tous te les citer, sinon ce serait très très long. Hein.
Et Léa, pouvez-vous nous dire quelques espèces d'oiseaux nicheurs?
Alors, pour les oiseaux nicheurs, eh bien, là c'est très simple. Il y a des tas d'espèces que tu connais déjà. Hein, les moineaux domestiques, les mésanges, que ce soit les mésanges charbonnières, mésanges bleus, mésanges nonnettes, mésanges jupés, tous les pics, le pic épêche, le pic vert, les canards, comme le canard col vert, les hérons, le héron cendré, et puis les rapaces, comme la buse, comme l'épervier, comme le faucon cresserelle. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup.
Et Loan, où nichent les oiseaux?
Alors, 181 espèces d'oiseaux, tu t'imagines bien qu'ils ne peuvent pas tous nicher au même endroit. Hein. Donc, on a, je t'ai dit tout à l'heure, en parlant des guépiers, par exemple, que les guépiers, eux, ils nichaient dans les rives quand on a des dépôts de sable qui sont suffisamment meubles pour leur permettre de creuser des terriers. Après, je t'ai parlé des rapaces. Rapaces nocturnes ou rapaces diurnes qui, eux, vont nicher dans les petites falaises. On a des falaises qui bordent la Durance, notamment dessous le vieux village de Vierre, dans lequel on peut trouver du faucon cresserelle, on peut trouver du grand-duc, on peut trouver de la buse variable. Ensuite, on peut avoir des oiseaux qui vont nicher sur des zones où on a des pelouses sèches. On peut avoir des oiseaux qui vont nicher à l'intérieur des roselières. On peut avoir des oiseaux qui vont nicher, eux, dans les arbres des ripisylves au bord des roselières. Tu vois, il y en a même qui nichent carrément dans les galets au milieu du cours de la Durance. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'endroits où ils peuvent nicher. Et c'est ce qui fait notre richesse. C'est parce qu'on a beaucoup de milieux de vie différents qu'on a toutes ces espèces d'oiseaux qui peuvent vivre là toute l'année. Je vous ai parlé de la ripisylve. La ripisylve, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la forêt du bord de l'eau. La sylve, c'est la forêt, hein, en latin. Et ripi, je crois que c'est bord de l'eau. Voilà, ripisylve.
Reda, combien y a-t-il d'espèces de poissons dans la réserve et lesquelles?
Alors, pour parler des espèces de poissons, on en a au moins une vingtaine dans le coin, hein, d'espèces de poissons. Les plus connues sont très certainement les truites, les brochets, les carpes, les tanches qui font le bonheur des pêcheurs. Mais on a une petite vedette dans le coin. On a un poisson qui est assez rare et qui lui aussi malheureusement est en train de disparaître de notre planète. Un poisson qui est une espèce endémique. Endémique, ça veut dire qu'il ne vit qu'à un endroit. Ce poisson, on l'appelle l'apron du Rhône. Donc on ne le trouve que dans le Rhône. Aujourd'hui, malheureusement, dans le Rhône, il a pratiquement totalement disparu. Je crois qu'il doit rester deux petites stations au niveau du Rhône. Et l'essentiel de ces populations est concentré dans le 04, notamment au nord de notre retenue, sur la zone de Salignac, où EDF, qui a mis un petit barrage en place, a été obligé pour ce poisson de faire une véritable passe à poisson qui a coûté très très cher pour permettre la continuité de cet animal, d'avoir une continuité écologique pour lui permettre de survivre à cet endroit-là. Donc EDF est très conscient aussi au niveau de cette durance, au niveau de notre lac, des enjeux environnementaux. Et on a aussi installé, notre association, la CESTUD, a aussi installé avec EDF une passe à mammifères aquatiques dessous le pont barrage pour permettre aux animaux de pouvoir continuer à vivre leur vie sans être trop importunés par tous ces ouvrages.
Élie, pourquoi vous appelez votre association la CESTUD ?
Voilà une question intéressante. Alors, pourquoi on a appelé notre association la CESTUD ? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une CESTUD ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Personne connaît ce nom. Ben, la CESTUD, c'est tout simplement une petite tortue d'eau douce qui vivait autrefois au moins jusqu'à 6 taurons sur la totalité de la Durance et qui, malheureusement, elle aussi, se porte plutôt pas très bien puisqu'elle a presque totalement disparu. On ne la trouve plus aujourd'hui que sur la basse Durance, à un seul endroit, à la Roque d'Anteron. Partout ailleurs, elle a disparu. Et la dernière tortue CESTUD de la moyenne Provence, elle a été trouvée en 1991 par un monsieur qui voulait planter chez lui, à Volonne, un cerisier au mois de novembre. Pour planter son cerisier, alors il n'était pas très loin des rives de la Durance, il fait un trou. Et en creusant son trou avec sa bêche, ben, il a ressorti tout simplement ce qu'il a d'abord pris pour une noix. Donc quelque chose, vous voyez, tout petit, hein, 3-4 cm de diamètre. Et puis il prend cette noix dans sa main en se demandant qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette noix. Et puis, dans sa main qui était chaude, la noix, ou la soi-disant noix, s'est réchauffée. Et puis il a vu sortir des pattes. Et là, il a compris qu'il avait affaire à une petite tortue. Il a amené cette petite tortue chez Alain Bertrand, le vétérinaire de Saint-Aubin, qui est un des grands spécialistes mondiaux des tortues. Et là, Alain Bertrand lui a dit, mais effectivement, vous avez une petite tortue. Donc, en 1991, les tortues CESTUD se reproduisaient encore sur notre territoire. Malheureusement, avec la fermeture du milieu tel qu'on la connaît aujourd'hui, avec tous ces roseaux qui se sont implantés, la tortue CESTUD n'en a pas été capable pour l'instant de la retrouver, malgré plusieurs campagnes de recherche qui ont été menées, que ce soit par ADN, par piégeage, on n'a pas été capable de la retrouver. Elle a été remplacée, malheureusement, par la tortue d'Amérique, que certains inconscients sont allés relâcher dans la retenue.
Brigitte Bourg, adjointe à la commune de l'Escale, le mot de la fin pour cette, disons, première rencontre avec les élèves.
On voudrait tous vous remercier pour votre investissement par rapport à ce travail. Remercier évidemment nos intervenants locaux qui sont très investis donc sur la commune et sur les environs. Remercier Sabine. Pour cela, on va vous applaudir et vous pouvez dire à nos représentants qui sont ici, merci beaucoup en applaudissant également.
Bravo.
Balade au cœur du village de l'Escale. Chris Alessandri.